moment pour la Terre, c'est tout de suite avec le président de France Nature Environnement 04, Monsieur Pierre Gottardi. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des aménagements des cours d'eau et des débits réservés.
Tout à fait. Oui, je voulais faire une émission sur l'aménagement des cours d'eau tels qu'ils ont été faits dans notre département en particulier et derrière la réglementation qui s'est associée à la gestion quantitative et notamment les débits réservés pour les milieux. C'est une histoire qui n'est pas très ancienne, mais qui risque d'avoir des conséquences aujourd'hui face aux évolutions climatiques. Donc je fais un tout petit peu d'histoire dans une première partie, après on parlera des débits réservés eux-mêmes, pourquoi et comment, et puis on terminera sur l'évolution de la ressource en eau et donc les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les milieux et sur les débits réservés. Voilà. Donc le département, historiquement, a une culture de l'eau, je dirais, qui vient probablement des temps anciens, notamment de la colonisation romaine. Hein. Tout le monde connaît le pont du Gard ou les domaines romains qui étaient dans le département, comme le domaine près de la Pierre Écrite, hein, vers Entrepierre. Voilà. Et effectivement, le climat a toujours été assez chaud, assez sec, d'où la culture de l'olivier, hein, et donc qui ont probablement engendré le développement de canaux pour les jardins, pour l'utilisation pour les cultures, mais aussi à partir du moment où on a un minimum d'industrialisation pour les moulins, hein, puisque la grosse partie des canaux, je pense au canal de la Brianne, qui est le plus ancien dans le département, puisqu'il date du 15e siècle, était au départ fait pour dériver l'eau du lac pour les moulins. Et puis derrière, les canaux de fuite de ces moulins servaient à arroser les champs pour les cultures et le maraîchage. Donc on trouve dans le département des actes très anciens, hein, puisque le canal Brianne, comme je disais, du 15e siècle, mais on a aussi des très gros ouvrages qui ont été construits plus bas, donc notamment le canal de Carpentras, en rive droite de la Durance, hein, qui va jusqu'à Avignon, qui est un canal qui est pareil, bien avant la Révolution. Et hier, j'ai rencontré le propriétaire du Moulin d'Aiglin. Le Moulin d'Aiglin, il était construit en 1640. Donc pareil, c'est des choses très anciennes qui traduisent l'importance de la culture, de l'eau, de la domestication d'une partie des débits des cours d'eau à des fins soit technologiques, soit culturelles. Et puis l'apogée de la population au 19e siècle, puisque l'apogée était aux alentours de 1850, il fallait nourrir tous les gens qui étaient à la campagne. Hein, quand on pense que la commune de Prats avait plus de 1000 habitants, il fallait les faire manger. Et donc d'où l'importance de la pression sur la forêt, puisque bon, on défrichait les forêts pour pouvoir faire des pâturages. Et puis il fallait mettre de l'eau dans les jardins si on voulait avoir quelques légumes à manger à la fin de la saison. Quoi. Et du coup, ça a généré de la part de l'État une loi très importante en 1865, qui est une loi qui a réglementé les associations syndicales autorisées, qui a fixé leur statut, puisque les associations syndicales qui construisaient les canaux, donc c'était des groupements de propriétaires qui construisaient les canaux pour faire de l'irrigation, il y avait des lois anciennes, et donc en 1865, l'État, devant le nombre d'associations qu'il y avait, a ressenti le besoin d'encadrer tout ça dans des lois très précises, avec des règles de fonctionnement très précises, pour éviter que des ouvrages qui étaient faits souvent avec l'argent de l'État pour les construire ne disparaissent au bout de quelques temps si les propriétaires n'avaient plus besoin. Donc du coup, la loi oblige les gens qui sont dans les périmètres d'associations syndicales à continuer à cotiser pour l'entretien des ouvrages. Voilà. Donc rien que dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, on avait plus de 1000 associations syndicales dans le département recensées. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur les archives. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 5 associations par commune. On a 200 communes aujourd'hui. Et on en trouve partout, de ces canaux, y compris en montagne. Enfin, moi, j'ai des souvenirs au-dessus dans l'Ubaye, dans des endroits difficilement accessibles, où les gens, pour pouvoir gagner un petit peu de fourrage, détournaient l'eau de fonte des névés, des glaciers, etc., pour la mettre sur les champs, même si c'était que des pâtures, pour faire repousser plus vite. Et... Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie aujourd'hui, mais enfin bon, on avait des bras disponibles, et donc tout ça se faisait à grand renfort de travaux manuels, hein, avec des espèces, on appelait ça des corvées, hein, où les gens se réunissaient puis pour des journées pour nettoyer les canaux qui, des fois, se remplissaient de coulées de boue au printemps quand il y avait beaucoup d'eau dans les cours d'eau. Alors, on retrouve encore ces techniques en Suisse pour l'entretien des... Ils appellent ça les bis. Ce sont des canaux qui sont taillés dans les versants et qui transportent l'eau d'une vallée à l'autre pour pouvoir arroser les champs, etc. Et donc, ils ont des techniques qui sont toujours utilisées aujourd'hui avec des gens qui vont dedans et qui colmatent aussi les canaux avec de la boue pour les étancher et permettre l'eau de passer. Voilà. Et puis, un phénomène aggravant. Donc, tous ces canaux, ils prenaient l'eau dans les cours d'eau et donc ils dérivaient ça dans les champs et vers les ouvrages de production, pour les moulins, etc. Et puis, on a eu une nouvelle pression qui est arrivée donc, à la fin du 19e siècle, c'est l'hydroélectricité. Et donc l'hydroélectricité, on a vu apparaître donc des ouvrages qui permettaient de produire de l'énergie en dérivant des débits beaucoup plus importants peut-être que certains canaux et sur des distances où l'eau n'était plus disponible. C'est-à-dire qu'elles sont dans un tuyau, elles ressortent beaucoup plus loin. Et du coup, la question s'est posée à ce moment-là de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'eau, où c'est qu'on la met, voilà. Et puis il y a petit à petit a émergé l'idée de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport aux poissons, parce qu'il y a un moment donné où la question s'est posée, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment à la fin du 19e et début du 20e qu'on a eu la plus forte pression sur les cours d'eau. Alors qu'à ce moment-là, on était à la fin du petit âge glaciaire qui a couvert donc l'Europe là, entre le 18e et 19e. Et donc, du coup, on avait beaucoup d'eau disponible puisqu'on avait des hivers plus longs, des quantités de neige plus importantes. Et donc, on avait de la fonte d'eau. Et du coup, cette pression sur les cours d'eau, elle n'a pas été forcément perçue à ce moment-là comme étant majeure, sauf après les gros aménagements comme Serpens ou autres, dans la mesure où on avait beaucoup d'eau. Donc les gens ne se posaient pas de questions, il y avait de l'eau, on pouvait en prendre, etc. quoi. À côté de ça, ces canaux d'irrigation gravitaire qu'on a eu partout ont généré des milieux semi-humides, des prairies humides, etc., qui sont des milieux extrêmement intéressants sur le plan faunistique et floristique, parce que c'est des milieux de transition entre les milieux aquatiques et puis les milieux secs. Et donc, c'est souvent les zones de transition sont souvent des zones extrêmement riches en termes de biodiversité. Voilà. Et la multiplication des canaux, des prises d'eau face à une diminution progressive des débits fait qu'aujourd'hui on est face à une situation qui fait que on peut pas on arrive à ne plus pouvoir satisfaire tout le monde.
Oui, il y a un manque d'eau évident.
Mais on s'est déjà posé la question bien avant, la question a été posée bien avant qu'on soit face à ces diminutions de la ressource, dans les années 50. C'est, donc on en parlera après. Mais il faut bien voir que, la technologie et les moyens financiers qui ont été engagés, par exemple, je pense, sur le canal, sur l'aménagement Serre-Ponçon, a permis de créer un aménagement qui maîtrise l'intégralité des débits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte d'eau sur le bassin Vincent d'Adurance qui n'échappe à l'aménagement hydroélectrique. Donc après, on fait le choix de le laisser dans la rivière ou de le mettre dans le canal usinier ou de le mettre dans une prise d'eau d'irrigation. Mais en fait, toute l'eau est maîtrisée. Ce qui n'était pas le cas lorsqu'on avait des prises endurance et que la rivière était naturelle. Mmh. Voilà. Donc c'est ça aussi qui a conduit à une réflexion qui a augmenté la réflexion sur le débit à laisser sur les milieux, parce qu'il fallait choisir entre enlever l'eau de la nature, auquel cas on a une catastrophe écologique sur la rivière qui disparaît, et puis donc le maintien de ces milieux, ou bien privilégier l'énergie ou privilégier l'irrigation. Et ces choix qui ont été faits de laisser de l'eau progressivement dans les cours d'eau, aujourd'hui, ils se retrouvent de plus en plus mis en évidence du fait de la diminution de la ressource en eau, quoi. Voilà.
On fait une pause musicale et puis on se retrouve juste après. Voilà. On va faire une pause musicale en musique guitare avec Pierre Bernon d'Ambrosio. Thank you. Un moment pour la Terre avec Pierre Gotardi de France Nature Environnement.
Je vais parler maintenant de ce qu'on appelle les débits réservés dans le jargon un peu technique. C'est donc la partie des débits qui sont dans les cours d'eau qu'on doit laisser dans la rivière au droit des aménagements qui sont réalisés. Alors historiquement, on n'a pas de, avant la Révolution, même après au XVIIIe siècle, on n'avait pas de notion de débit réservé pour les rivières, pour les cours d'eau de manière générale. On voyait arriver dans les actes de concession le droit des avaliers, c'est-à-dire que les gens qui étaient en bas, en dessous, devaient avoir de l'eau pour satisfaire le besoin. Et donc, s'il y avait des droits d'eau qui étaient précédents, ils devaient être respectés. Mais on n'a pas de notion de dire qu'il faut laisser de l'eau pour les poissons, la notion de milieu aquatique n'existait pas à l'époque. Voilà. Et puis, globalement, je pense que la pression était assez faible sur les cours d'eau, et donc ça ne se passait pas trop mal. Surtout que sur des rivières naturelles, on a forcément des crues, et donc on a des moments où le lit est totalement modifié, du fait des crues importantes lors soit des fontes de neige, soit des crues liées aux pluies. Et du coup, on avait des régimes beaucoup plus naturels dans les cours d'eau qu'on ne les a pas aujourd'hui. Et puis, avec l'apparition d'hydroélectricité, le législateur s'est quand même dit qu'il fallait peut-être réduire un peu la pression sur les milieux. Et donc, la loi sur l'hydroélectricité en 1919 a prévu de laisser un débit dans les cours d'eau sans forcément fixer sa valeur. Voilà. Donc, il y avait des débits réservés. Donc sur la Durance, par exemple, on était probablement de l'ordre de 1 ou 1,5% du débit moyen à laisser dans la rivière, pas plus. Voilà. Donc il a fallu attendre 1986 avec la loi Pêche, alors je crois que c'était Mme Bouchardeau, mais je ne suis pas sûr, qui a fixé la valeur du débit réservé au 40e du débit moyen annuel. C'est-à-dire on laisse dans la rivière 2,5%. Donc ça, c'était un grand pas en avant, même si le pas n'était pas très grand. Voilà. Et là, la nouveauté, c'est qu'en fait, tous les aménagements étaient soumis à cette obligation, y compris les droits fondantistes, y compris les ouvrages qui dataient d'avant la Révolution et qui sont des droits imprescriptibles. Il faut savoir, donc ils ont des droits un petit peu exorbitants, puisqu'ils ont, c'est les droits qui avaient été abolis en 1693, abolition des privilèges, et qui ont été restaurés par M. Napoléon Ier. Voilà. Donc, ça a été dur parce qu'en fait, un certain nombre d'aménageurs, y compris EDF sur l'aménagement de la Durance, considéraient que ça leur était pas applicable. Et donc, pour la Durance, c'est la Fédération de pêche qui est allée au Conseil d'État pour faire respecter le 40e du module. Donc, c'est une victoire historique. Enfin, il a fallu la chercher. Ben, c'est quand même, c'était pas gagné d'avance. Voilà. Et donc, petit à petit, la connaissance des milieux, l'évolution des mentalités, etc., ont fait évoluer les choses. Et la notion de milieu aquatique et de respect des milieux aquatiques est apparue. Et donc, en 1992, la première loi sur l'eau a fixé les nouveaux débits réservés, cette fois au 10e du module, c'est-à-dire donc on laisserait 10% de la ressource en eau dans la rivière, ou bien le 20e, c'est-à-dire 5% si les débits sont très importants. Les grosses rivières comme la Durance, qui ont un débit moyen plus supérieur à 80 mètres cubes secondes, on a le droit de laisser qu'au 20e. Alors, il faut savoir que la loi impose des valeurs, qui peut être éventuellement modulé en fonction du régime hydrologique, de façon à laisser peut-être plus d'eau quand il y a beaucoup d'eau dans la rivière, et puis ne pas descendre en dessous du 10e. Et donc, par exemple, certains aménagements, on est au 5e à certaines périodes de l'année, c'est-à-dire qu'on laisse pratiquement 20 ou 25% d'eau à passer. Quoi, voilà. Et donc ça, c'est fait pour permettre à la rivière et donc, d'alimenter ses milieux aquatiques et de maintenir une vie aquatique à peu près... acceptable dans la rivière. Le problème de fond, c'est que sur les rivières qu'on a dans nos départements, ou dans les départements des Hautes-Alpes, on a des rivières qui sont des rivières piémont et qui sont donc à fort charriage, c'est-à-dire qu'elles descendent beaucoup de charges de matériaux, parce qu'en haut, on a des pentes fortes. On est sur ce qu'on appelle le régime torrentiel, et donc le régime torrentiel, il produit des matériaux, puisqu'il faut l'eau, quand elle se déplace, elle dissipe son énergie en transportant des cailloux. Hein. Et donc les cailloux, ils descendent, descendaient jusqu'à la mer, hein. Donc, c'est pas difficile. Et donc, on a souvent des lits qui sont assez larges, qui vont avoir l'île d'Abléone ou l'île de la Durance. L'Abléone ou l'As, c'est des rivières qui, en temps normal, il leur faut 150 à 200 mètres de large pour vivre. Voilà. Alors le problème, c'est que quand on est sous régime débit réservé comme la Durance, qui avait un lit qui faisait entre 250 et 300 mètres de large, dans lequel elle évoluait au fil des crues, quand vous réduisez ça à 5%, puisqu'elle est au 20e du module, on a en fait un filet d'eau qui zigzague au milieu du lit. Et donc, on a forcément une évolution des milieux qui se restreignent, puisque bon, les parties qui ne sont plus jamais visitées, eh ben, ils s'assèchent. Ou alors, ce sont des milieux à peine humides, parce que la nappe, elle est suffisamment proche, ça fait des milieux humides. Si elle est suffisamment loin, ça fait des milieux secs. Et donc, du coup, c'est toute cette évolution des milieux dont on a pris conscience au fil du temps et augmentée aujourd'hui par la diminution de la ressource en eau. Quoi. Et c'est là toute c'est toutes les discussions qu'on peut avoir entre aménageurs et défenseurs de l'environnement sur la notion de qu'est-ce qu'on fait de la rivière. Est-ce qu'on en laisse plus d'eau dedans? Est-ce qu'on en met plus dans les canaux? Donc il y a eu toute une évolution. Par exemple, au niveau des canaux gravitaires, il y a beaucoup de canaux qui ont été transformés en... Donc on a supprimé le canal gravitaire, on a mis des tuyaux, et puis on a mis une pompe. Donc on fait de l'arrosage par aspersion. Donc on gagne beaucoup, beaucoup d'eau en faisant de l'aspersion, c'est-à-dire qu'on peut gagner jusqu'à 50% des volumes dérivés initiaux. Parce que là, les techniques permettent simplement, c'est qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement des milieux. C'est-à-dire quand on apporte de la pluie, à un moment donné, on apporte la lame d'eau qu'il faut aux plantes pour qu'elles puissent vivre et se développer, sauf qu'on n'apporte pas de l'eau qui va descendre en profondeur dans la nappe. Alors que le canal gravitaire a beaucoup de pertes en ligne, parce que bon, c'est des canaux en terre, donc on alimente le sol. Par exemple, le canal, la Croix, toute la plaine de la Croix est alimentée par un canal gravitaire qui apporte beaucoup d'eau, comme c'est une plaine en gravier qui descend, et donc on alimente la nappe de la Croix sur laquelle les communes peuvent aller s'alimenter pour l'eau potable, etc. Et donc, en permanence, les choix d'aménagement doivent être faits pour dire qu'est-ce que je privilégie. Je privilégie la rivière, qui est un milieu naturel, etc., ou bien est-ce que je privilégie d'autres usages et qui peuvent avoir des conséquences secondaires intéressantes. Et toute la gestion de l'eau et la problématique, notamment autour de la Durance, elle tourne autour de ça, quoi. Et c'est vrai que, comment dire, on a du mal à... Enfin, jusqu'à maintenant, on avait du mal à gérer, à concevoir l'intégralité. Et donc, il a fallu effectivement la loi sur l'eau et puis la directive 4 sur l'eau européenne qui oblige à analyser, en gros, les cours d'eau dans leur intégralité, c'est-à-dire la rivière, la nappe associée, les milieux aquatiques, etc. Et donc, le bon état, il résulte de l'analyse de tous ces facteurs-là. Et on peut se poser la question, alors la réglementation française trouve toujours des solutions pour s'adapter, mais on peut se poser la question de dire, effectivement, un aménagement comme celui de la Durance aujourd'hui, est-ce qu'on le referait ou pas? La question est posée. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que l'évolution du lit de la Durance tel qu'il est aujourd'hui, c'est quand même quelque part une catastrophe écologique qui a été choisie. On a fait un aménagement anthropique, industriel, et puis on a des conséquences environnementales que je pense les concepteurs n'avaient peut-être pas pesé à leur juste valeur au moment où ils ont conçu le projet, si vous voulez. Aujourd'hui, on prend beaucoup plus de précautions, mais il n'empêche quand même qu'avec la pression qui est mise aujourd'hui sur la production d'énergie, l'hydroélectricité reprend du poil de la bête. Et donc, dans les départements alpins, on voit surgir des projets de micro-centrales pour aller turbiner le moindre torrent qui descend, etc. Et quelque part, on est en train de... si on s'engage là-dedans, on est en train de dégrader les dernières rivières sauvages des Alpes, si vous voulez. Quand on voit surgir des aménagements, moi j'en ai il n'y a pas longtemps, là, dans la Guisane ou des choses comme ça, sur des torrents qui descendent de glaciers qui sont en train de disparaître. Donc on peut se dire quelle est la pérennité de l'aménagement dans un délai de 25 ou 30 ans quand on sait que les glaciers, ils auront fondu, quoi. Et du coup, la question, elle n'est pas évidente, quoi, à trancher. Et c'est pour ça que sur la Durance, j'en parlerai après, le sage Durance est lancé parce qu'on a une ressource qui a été maîtrisée, qui sert à alimenter toute la Côte d'Azur, entre le Var et les Bouches-du-Rhône. Et donc, ça fait des populations très importantes. On a 2 millions d'habitants qui sont desservis par la Durance. Et face à l'évolution, qu'est-ce qu'on va faire? Quel choix on peut faire en termes d'aménagement du territoire, etc. Voilà. Et donc, la pression aujourd'hui, elle augmente parce qu'on a moins d'eau et puis parce qu'il y a plus de monde et parce qu'on veut toujours en tirer le maximum, quelque part, de profit, que ce soit de l'énergie ou que ce soit des cultures ou autres, quoi. Voilà.
Pierre Gottardi.
Oui, alors je voulais après donc parler un peu des menaces qu'il y a sur les milieux aquatiques aujourd'hui. Alors pourquoi on a ces menaces? Alors au-delà de la pression pression anthropique qui peut y avoir sur les cours d'eau, on est face à une évolution climatique. Et la partie sud de la France sera sûrement encore plus impactée peut-être que la partie nord, avec un changement profond des précipitations. Donc il faut savoir qu'au cours des 30 dernières années, on a déjà perdu dans le département au moins 50 mm de pluie sur un total de 750. Et on voit bien que la température remonte. Alors il y a une étude des populations piscicoles qui a été faite il y a 3 ou 4 ans par la Fédération de pêche départementale, qui a analysé la météo sur les 30 dernières années, puisque bon, on a un service de Météo France qui est extrêmement intéressant sur le plan des données climatiques, avec des postes répartis un peu partout. Et donc la température moyenne mesurée, alors à Embrun, elle a quand même pris 2,5 degrés en 30 ans. Donc quand on nous parle de 1 degré à l'échelle internationale, nous, on est déjà au-delà de ça. Et donc ça génère donc une remontée des températures de l'eau. Et donc les cours d'eau aujourd'hui n'ont plus tout à fait les mêmes populations piscicoles. C'est-à-dire que les populations d'eau froide, comme les salmonidés, enfin les truites pour faire court, elles remontent vers le froid, elles remontent vers les parties en altitude. Les poissons d'eau moyenne, ils remontent eux aussi pour avoir de l'eau, la température qui leur convient bien. Et on voit apparaître dans la partie basse des cours d'eau des poissons d'eau chaude, notamment comme la perche soleil, qui remontent dans la Durance, etc. Alors on a des problèmes de remonter avec les barrages, soit les ouvrages, les seuils qui sont en basse durance, soit les ouvrages EDF qui empêchent la remontée naturelle des poissons. Mais on a aujourd'hui un transfert des populations piscicoles vers le haut, vers l'altitude, pour avoir les températures suffisamment basses. Et l'irrégularité des précipitations qu'on voit apparaître aujourd'hui fait qu'on a des grandes périodes sans pluie. Et quand à l'automne, on n'a pas de pluie qui permette de faire baisser la température des rivières, les salmonidés, les truites ne se reproduisent plus. C'est-à-dire que si l'eau n'est pas suffisamment fraîche, il n'y a pas de ponte. C'est la température qui déclenche le phénomène de ponte chez les truites. Voilà. Et donc ça, c'est un problème qui apparaît aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des aménagements hydroélectriques sur les sommets des bassins versants. On est face justement à cette pression de vouloir maîtriser une partie des débits pour faire l'électricité, puisque il y a des besoins dans ce domaine-là. Et puis de l'autre côté, on a besoin d'eau fraîche et on a besoin d'eau dans les parties hautes pour que les truites puissent continuer à vivre si on veut garder ces populations. Quoi, voilà. Et ça, ça fait partie des choix à faire. Est-ce qu'on privilégie d'un côté les milieux ou est-ce qu'on privilégie de l'autre côté l'énergie? Il y a des bilans à faire en termes de, comment dire, d'avantages et d'inconvénients. Voilà. Et on voit apparaître aussi aujourd'hui des tensions sur sur l'eau liées aux aménagements anthropiques. Sur des endroits où les gens ne s'y attendaient pas. Dans le département 04, on a eu des sécheresses importantes dans les années 2000, 2010, enfin la décade 2000 à la décade 2010. On a eu une succession de sécheresses à intervalles assez réguliers qui nous a obligés à nous mettre en ordre de marche par rapport à ça. Alors que dans le département 05, ils ont été un tout petit peu épargnés sur ces périodes-là. Donc on s'est mis très tôt en ordre de marche pour travailler là-dessus, donc avec un système d'études qui permet de savoir ce qu'on peut prélever mois par mois, etc., et qu'est-ce qu'on doit laisser à la rivière pour respecter les objectifs de survie des milieux. Et on est un département où les choses sont pas faciles, mais on a pris l'habitude de discuter, de se parler. Dans d'autres départements, les gens n'ont pas eu ces difficultés, donc n'ont pas l'habitude de discuter de la quantité, et du coup, c'est beaucoup plus tendu. Hein, voilà. Et donc, on a vu apparaître, lors de la sécheresse de 2022, une demande explicite des agriculteurs sur le Buëch, et pareil sur la basse Durance, de dire « mais pourquoi on laisse de l'eau à la rivière ?» L'eau, elle, c'est beaucoup mieux dans nos champs. Voilà. Et donc, l'État, les préfets ont cédé à cette pression agricole en disant ben, on va diminuer les débits réservés. Donc, sur le Bêche, le débit réservé a été diminué de moitié. Et sur le. Sur la Durance, pareil. C'est-à-dire que le débit réservé étant modulé sur l'année, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours, il n'a pas la même valeur tout le temps, ben, ils ont pris au mois de juin la valeur du mois de juillet. Ça a permis de gagner quelques millions de mètres cubes pour les arrosants du sud, voilà, les agriculteurs. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, face à ces tensions sur la répartition de l'eau, on a déjà des velléités de remettre en cause ce qu'on laisse au milieu. L'argument étant de dire, ben, avant c'était au 40e, les truites vivaient bien, pourquoi aujourd'hui on ne leur laisserait pas la même chose alors qu'on n'est plus dans les mêmes conditions et que, comment dire, il y a peut-être d'autres voies d'amélioration de la gestion quantitative que prendre l'eau de la rivière. Enfin, voilà, on peut remettre en cause certains usages, on peut remettre en cause le mode de fonctionnement, etc. quoi. Et c'est ça qu'il faudrait mettre en place pour permettre justement une réflexion globale. On peut, enfin moi c'est un message que je porte, alors des fois je ne suis pas entendu, mais la société telle qu'elle est constituée aujourd'hui, au niveau global, c'est un tout. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, Pierre, Paul ou Jacques, ils ont fait des choses qui n'ont pas... Oui, ils ont peut-être fait des choses, il ne fallait pas les faire, mais à l'époque ça a été autorisé, tout le monde était d'accord. On ne va pas dire aujourd'hui, il ne fallait pas mettre l'irrigation dans les champs pour les agriculteurs, c'est ridicule. Voilà. Par contre, mieux gérer l'irrigation, mieux gérer l'eau potable, et puis voir ce qu'on peut gagner en termes d'économie. Moi, quand je sais que je descendais à Marseille pour la gestion de la sécheresse et que je voyais couler l'eau de la Durance qui est traitée dans les canaux, dans les rues de Marseille pour rafraîchir et pour enlever les ordures, on a un peu du mal à l'admettre, quoi. Quand nous-mêmes, on est en restriction, puisque bon, dans les départements, on n'est pas réalimenté par la Durance, eh bien, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut pousser et qui devra être mise au point dans le cadre d'une démarche plus globale qu'est le sage d'urance, quoi. Voilà. Mais on sent aujourd'hui, très nettement, les gens se replient un peu sur... C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde veut pousser ses pions en disant « Mais moi, je suis élu au conseil départemental, j'ai besoin d'eau potable, j'ai besoin d'eau pour la neige parce que je privilégie les sports d'hiver, et j'ai besoin d'avoir des rentrées d'argent, donc il faut que je continue à construire. » Enfin, on a entendu des discours sur la Côte d'Azur qui était un petit peu... qui nous a beaucoup interpellés en disant « Mais il y a de l'eau, on n'a qu'à la prendre et on peut construire. » Oui, sauf que l'eau, elle vient du Verdon, ou elle vient de la Durance, et on n'est pas sûr de remplir... Non, mais on n'est pas sûr de pouvoir remplir Serre-Ponçon dans les années qui viennent, quoi. Donc, les prospectives du climat, qui ont été déclinées à partir des hypothèses du GIEC par le GREC, qui est le groupe régional sur le changement climatique, montrent que d'ici 2050, on va encore perdre au moins 10% de la ressource, et d'ici 2100, c'est 20%. Donc, avec des irrégularités de précipitations, avec la disparition des glaciers sur le bassin versant de la Durance, on va tout droit vers des épisodes comme 2022, c'est-à-dire pas de pluie pendant longtemps, donc très peu de débit dans la Durance qui n'aura plus de débit alimenté par les glaciers, et donc du coup, est-ce qu'on va remplir ou pas? C'est ce qui s'est passé en 2022. 2022, tout le monde a été dit, mais on va pas remplir, on n'a pas rempli Serre-Ponçon, il est même descendu à un creux quasiment historique. Donc, il faut qu'on arrive à réfléchir différemment par rapport à ça. Et malheureusement, les élus sont conscients du problème, mais tout le monde n'a pas les mêmes solutions, quoi. Et moi, j'ai toujours dit dans le département aux agriculteurs, le jour où Marseille a soif, vos épis de maïs ou vos pommes, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Alors quand je dis ça, ça choque, mais c'est pourtant la réalité. On privilégie l'eau potable. Mais il faudrait savoir ce que c'est l'eau potable à Marseille. Voilà.
On n'a pas fini d'avoir des conflits d'intérêts autour de l'eau. On fait une pause musicale ?
Oui.
Allez, dans l'eau de la Clairefontaine, justement. Thank you. rester optimiste.
Oui.
On reprend donc cette émission Un moment pour la Terre.
Oui, donc je voulais terminer sur, face à ces conflits d'intérêts qui apparaissent, comment dire, la nécessité donc de mettre en place une politique de gestion globale à l'échelle du bassin versant. C'est ce qui devrait se faire à travers l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Durance, dont l'élaboration vient de commencer à travers la désignation de la commission locale de l'eau. Alors, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, il a pour but de répondre aux questions essentielles de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Il ne s'intéresse pas seulement à la quantité, mais il s'intéresse aussi à la qualité, il s'intéresse au milieu et il s'intéresse aussi à la politique qu'on doit mettre autour pour arriver à conserver l'ensemble du bassin versant en bon état vis-à-vis des exigences européennes.
Donc qui décide de ce schéma d'aménagement?
Alors, la mise en place du schéma a été demandée dans le cadre du SDAG, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc ça, c'est un document de planification qui est fait à l'échelle du bassin du Rhône. La France est découpée en grands bassins versants, donc la Seine, le Rhône, Rhône Méditerranée, on a le Rhin, Rhin-Meuse, on a la Loire, et puis on a Adour-Garonne, donc la Corse étant à part, eux, ils ont fait un bassin à part. Avant, elle était avec nous, maintenant elle est autonome, déjà sur l'eau. Voilà, donc dans le cadre du SDAGE, donc, il avait été demandé de mettre en place un SAGE sur la Durance, du fait du déséquilibre de la gestion de l'eau entre la partie sud, qui est la partie consommatrice, hein, donc avec la Marseille et toute la côte varoise, et puis donc le bassin producteur, qui sont les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, et puis un peu le Vaucluse, et un tout petit peu le nord du Var. Voilà. Et donc, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, comme j'ai dit, il a pour but d'élaborer une politique de gestion globale avec des axes d'action et puis des actions précises. Hein. Donc, sur la quantité, sur la qualité, sur la reconquête de la qualité des milieux. Et donc, tout ça doit se décliner après dans des programmes d'action sous forme de contrats de rivière. Voilà. Donc, le SAGE est piloté par la commission locale de l'eau, qui est une espèce de parlement de l'eau à l'échelle locale. Donc dans le département, on a déjà l'expérience des SAGE, puisqu'on a un SAGE sur le bassin versant du Verdon, qui avait été fait à partir des années 2000. On a débuté en 2000 jusqu'en 2012. 12 ans pour élaborer le SAGE Verdon. Bon, pour faire se rencontrer les gens de l'altitude et les gens de la partie basse. Voilà. Mais on y est arrivé. On a un autre SAGE qui a bien fonctionné, qui continue à fonctionner sur le Calavon, donc le bassin qui nous touche vers Sierrest. Et puis donc là, on attaque sur le bassin d'Adurance. Donc la commission locale de l'eau, c'est le parlement de l'eau à l'échelle locale, qui est composé, alors pour une, je crois que c'est la moitié, par des élus, des collectivités qui composent le bassin versant. Et puis on a un collège des usagers, un collège des services de l'État. Et puis il y a dans les usagers, on a des gens comme EDF, la SCP ou les irrigants, l'irrigation, etc. Et on a un collège avec les gens qui s'occupent les consommateurs et les associations de défense de l'environnement. Voilà. Donc on fait partie de cette clé, puisqu'on a deux sièges, FNE a deux sièges au niveau régional. Et donc on va tâcher de porter la voix de l'environnement et la voix du bon sens dans cette clé. Et il faut savoir que la loi permet à la clé, et donc au SAGE, d'aller plus loin que la loi elle-même. C'est-à-dire que la loi impose des objectifs ou impose une certaine réglementation, et donc la clé peut décider d'avoir des mesures plus contraignantes à l'échelle de son bassin versant, si c'est justifié par une mesure à prendre pour garder... on peut imaginer que dans le bassin de la Durance, on dise on limite le prélèvement, les prélèvements domestiques, je préciserai après, à, mettons, 10 mètres cubes ou 15 mètres cubes par an, au lieu qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est 1000. Bon. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de prendre 1000 mètres cubes d'eau dans la nappe sans faire autre chose qu'une déclaration au maire. Voilà. Donc, dans certains endroits, ça pose des problèmes de conflit entre, justement, l'eau dont a besoin la mairie pour l'eau potable et puis ceux qui prennent ça pour leur piscine ou leur toilette. Quoi. Voilà. Et donc, on peut imaginer que, localement, il y a des mesures plus contraignantes qui soient prises par la clé pour, justement, répondre à des objectifs spécifiques à ce bassin versant. Voilà. Et donc, toute la difficulté et toute la subtilité de la réflexion autour de du sage d'urance, ça va être effectivement d'arriver à définir une gestion, notamment de la quantité, qui intègre le bassin versant, mais qui intègre aussi les gens qui ne sont pas dans le bassin versant. Et on appelle ça le bassin déversant. Parce qu'en fait, toute la côte, donc Marseille, et puis la côte d'Azur, pratiquement jusqu'à la limite avec le 06, jusqu'à Saint-Cassien, tout ça, toute la côte est desservie maintenant en grande partie, alors soit par la Durance sur Marseille, l'agglomération marseillaise, soit par ce qu'on appelle le canal de Provence, la société du canal de Provence, qui prend l'eau dans le barrage de Gréoux, et qui, à travers ces aménagements, va à Toulon et va maintenant jusqu'à Saint-Cassien. Et donc, tout le moyen Var et toute la côte d'Azur jusqu'à Toulon et puis de l'autre côté, Marseille, etc., tout ça est alimenté par la Durance. Or, ils ne sont pas dans le bassin versant. Or, un sage, c'est fait pour s'intéresser à un bassin versant. Et donc, du coup, toute la difficulté, ça va être de faire comprendre à ceux qui consomment de l'eau à l'aval, qui ont des droits d'eau historiques, etc., de comment on fait pour avoir une gestion du territoire qui permettent d'avoir une gestion équilibrée de cette ressource. Parce que quand on autorise le développement, la construction, donc l'apport de nouvelles populations, on génère de nouveaux besoins en matière d'eau potable, mais on génère aussi de nouveaux besoins en matière de services, en matière d'industrie, etc. Et si on autorise un développement sans maîtrise, on va tout droit vers des pénuries d'eau. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est déjà tendu. Donc, toute la difficulté, ça va être d'associer ces gens-là à la réflexion dans le SAGE, sans qu'ils soient décisionnaires, puisqu'ils n'ont pas le droit d'y être, mais donc prendre en compte leurs besoins, mais aussi peut-être leur imposer des mesures de gestion qui soient suffisantes pour permettre d'avoir une gestion équilibrée à long terme. Et ça, c'est le gros défi. Aujourd'hui, on a des schémas régionaux, qui, notamment ce qu'on appelle le SRADET, hein, c'est le schéma régional d'aménagement, développement durable, etc. Voilà, et tout ce qu'on veut. Et le SRADET, il prévoit des mesures, des taux d'augmentation de population qui sont extrêmement bas, justement pour ça. Et en fait, alors que c'est la région qui l'a fait, hein, c'est pas France Nature Environnement qui a fait le SRADET. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces objectifs du SRADET, quelque part, les gens veulent pas. Enfin, il y a une partie des élus qui ne veulent pas le respecter. Et quand on s'intéresse aux PLU qui sortent, aux PLUI ou aux SCOT, on s'aperçoit que les élus aujourd'hui, ils ne tiennent pas compte de ces restrictions volontaires que la région avait mis dedans. Et donc, ça pose tout un tas de questions pour une réflexion future en disant. Parce que l'eau, elle conditionne le développement économique, elle va conditionner le développement des populations. Et ça, il faut impérativement qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et qu'on se mette d'accord sur des hypothèses de fonctionnement pour l'élaboration des documents de planification derrière. Donc, il n'y a pas que l'équilibre de l'eau à trouver. L'équilibre de l'eau, il va conditionner d'autres équilibres ailleurs. Un gros défi. Voilà, alors juste en conclusion, je voulais simplement dire qu'il faut que la population elle soit informée. C'est-à-dire que nous, on va essayer de faire de l'information des populations. On va essayer de fédérer à l'échelle régionale les associations de défense de l'environnement de façon à pouvoir porter une parole un peu globale à l'échelle quand on va à la clé. Quand on va à la clé, à Malemort, au syndicat d'aménagement de la Durance, qui est le bras armé, je dirais, celui qui fait les papiers et qui va faire la rédaction des documents qui seront proposés par la clé. Il faut qu'on arrive à fédérer un message collectif de la part des associations de défense de l'environnement pour porter ce message et être suffisamment fort en termes de représentation pour essayer de faire valoir notre point de vue là-dessus. Voilà. Donc il y a des choses qui vont se déclencher petit à petit et on va essayer, nous, FNE régional, de faire des actions de fédération pour fédérer justement les associations qui aujourd'hui ne sont pas dans notre réseau et qui, on leur vit très bien. Mais nous, on a l'avantage d'être reconnus à l'échelle de la clé et donc d'être présents à la clé. Et pour porter ces messages-là, on ne sera pas trop de deux, mais ça serait intéressant qu'on puisse avoir l'avis des autres usagers, d'associations, etc. Quoi. Donc on va essayer de faire des manifestations pour associer les gens. Voilà.
Bien, Pierre Gotthardi, merci. Est-ce qu'il y a un agenda à annoncer pour les actions de France Nature Environnement pour le mois de février ou... Non. Non. Ou on retrouve peut-être sur le site.
Oui.
Voilà.
Oui.
Le site de France Nature Environnement, donc 04.
04.
Merci. Et je rappelle donc que cette émission sera en ligne très prochainement et puis qu'on vous retrouvera à la fin du mois de février, dernier mercredi de février, à 9h sur 99.3. Merci, bonne journée. Au revoir.
Au revoir et merci.